France Culture, il est 23h, les voies de l'imaginaire s'ouvrent à vous. Rien n'est trop beau, rien n'est trop fou, tout est possible.
Creation on Air.
Bonsoir. Dans l'enfance, nous avons croisé des formes étranges, le plus souvent en béton, postées sur des dunes ou enterrées dans le sable, recouvertes de graffitis ou dégageant l'odeur âcre des lieux où se cachent des activités classées d'emblée dans le clandestin. Ces blocos mystérieux et menaçants déposent une part d'étrangeté propice à toutes les expérimentations. Un de ces lieux a été confié à Marc-Antoine Mathieu. Le dessinateur et metteur en scène a aujourd'hui entre les mains la 14e alvéole d'une base de sous-marins construite par l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire. Ajoutez à cela le radome, un ancien radar en forme de demi-sphère sur un toit que Marc-Antoine Mathieu a confié au rêve de Gilles Clément. Ce soir, visite des lieux avec Christian Rosset et Gaël Gillon.
Où sommes-nous ?
Alors là, on se trouve dans la rue intérieure de la base des sous-marins. C'est donc une rue qui coupe en transversale la base, qui est elle-même composée de différentes alvéoles.
Combien ?
14 alvéoles. On voit encore au sol les rails de chemin de fer qui servaient justement à l'approvisionnement des ateliers et des différentes alvéoles dans lesquelles étaient entreposés donc les sous-marins allemands U-boat.
Donc c'était plein d'eau.
Donc effectivement
À sec. Hein.
Absolument, ouais, mais il y avait de l'eau bien entendu pour ces sous-marins. Et par contre dans les têtes d'alvéoles, on était à sec puisque c'était des ateliers techniques, des bureaux, voilà, pour assurer toute la logistique et l'intendance de cette chose-là.
Cette base, elle a été construite sous ordre de l'occupant nazi.
Bien sûr, ça fait partie du dispositif du mur de l'Atlantique. C'est une des 5 bases de sous-marins sur la côte atlantique. Et c'était un poste stratégique vraiment important. Ça a été aussi cette base, mais toute la ville de Saint-Nazaire, la dernière place libérée le 11 mai 1945, le dernier endroit en Europe était libéré.
Le béton, la lumière et le vent. Christian Rosset, Gaël Gillon.
C'est très visuel.
Oui, c'est super visuel et c'est très plastique. C'est-à-dire que je trouve que dans cet endroit, il y a une plasticité terrible parce qu'il y a des volumes, c'est quelque chose de très sculptural aussi pour moi. Ça me rappelle des grands projets de l'artiste américain. Et c'est aussi très visuel, cinématographique, puisqu'il y a des cadrages permanents avec ces ouvertures sur le port et qui cadrent le champ avec des bateaux qui passent, des grues, voilà. Donc c'est effectivement un endroit qui sollicite beaucoup l'imaginaire et la fiction en fait. Mais c'est aussi parce que c'est un endroit qui n'est pas complètement aménagé. Il y a des parties qui sont refaites, voilà, ils sont des lieux culturels, des salles de concert. Et puis il y a encore des parties en friche, comme celle-ci. Et je trouve ça vraiment intéressant que ce ne soit pas complètement occupé.
Par le culturel.
Ou par autre chose, peu importe, mais que ça reste encore dans cet état un peu de friche, dans cet état assez indéterminé, parce que je trouve que ça correspond bien à ce type de bâtiment. C'est très bizarre quand même d'avoir une masse de béton comme ça dans une ville si proche, si surdimensionnée d'ailleurs par rapport à la taille de la ville.
C'est un monstre.
C'est un monstre, ouais. Un monstre, ouais. Un vrai monstre, et avec une démesure, hein. Et je trouve que ça dit bien aussi que c'est difficile de digérer ces monstres-là. On ne peut pas absorber des objets ou des lieux de cette nature aussi simplement. Et du coup, il y a la question du temps et de la temporalité de la ville qui s'exprime, je trouve, ici. Parce que... ouais, parce qu'il faut du temps pour apprivoiser cet espace. Je ne sais pas s'il faut d'ailleurs le domestiquer. Enfin, évidemment, la ville, elle essaye de le domestiquer. Elle essaye de le rendre vivable, fréquentable, j'ai envie de dire.
Saint-Nazaire, 20 juillet 2015. Le vent et la pluie se sont calmés. La lumière est vive malgré les nuages qui affluent avec la marée montante. Dans le béton lézardé, on découvre des plantes sauvages qui croissent en tous sens comme dans les terrains vagues. Malgré les ravages de la Seconde Guerre mondiale, dont cette ville garde d'innombrables traces, malgré le souvenir des morts qui la hantent de nuit comme de jour, nous nous trouvons ici dans une construction débordante de vie, fascinante par sa démesure, certes parfois inquiétante, mais ouverte à toutes sortes d'échanges, incitant au jeu avec le son, musicalement composé. À l'entrée de la base, Sophie Legrand-Jacques, Marc-Antoine Mathieu, Elisa Fache et Franck Bertrand nous accueillent. Gilles Clément nous rejoindra plus tard en studio. De quoi allons-nous parler ? De ce qui nous fait tendre l'oreille et ouvrir grand les yeux. De ce qui nous arrête quasiment à chaque pas. De ce qui résiste à l'effacement. De l'invisible qui surgit alors que nous avançons du plus profond des ténèbres aux trouées ouvertes aux quatre vents, dans ce qui forme, aujourd'hui, un lieu enchanté. Merlin et sa prison d'air ne sont pas loin, et Monsieur Hulot, dont la plage des vacances se trouve à quelques battements d'ailes, non plus. Sophie Legrand-Jacques.
Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'est un architecte allemand qui a fait l'aménagement donc de l'alvéole 14, dans lequel il y a le Life, de toute cette rue intérieure, et qui a eu l'idée aussi de ramener, de faire venir de Berlin le radôme. Ça correspond pour lui au cerveau de la bête, au cerveau du monstre, en quelque sorte.
Au cervelet,
voilà, du monstre froid. Et en même temps, la nuit, comme c'est éclairé, c'est vrai que ça sert un peu de phare. Enfin, c'est un endroit qui...
On peut s'y promener la nuit, ici, ou c'est fermé ?
Dans cette rue intérieure, on peut s'y promener. Le toit est fermé à partir de 22h.
C'est un lieu de rendez-vous ?
Pour les jeunes, oui. Les jeunes qui cherchent de l'intimité ont tendance à se planquer un peu dans les recoins. Il faut savoir que Saint-Nazaire offre très très peu d'endroits justement pour se retrouver, pour se planquer. La ville est très très ouverte et son urbanisme fait qu'on est toujours à la vue de tout le monde, dans les courants d'air, et c'est très particulier comme espace public. Donc c'est vrai que les jeunes ont tendance à monter, à se planquer, à boire un petit peu, voilà.
C'est une ville qui vit d'une manière particulière, vraiment. On le sent très vite.
Elle a une respiration particulière.
Ah oui, oui, oui. Bah oui, de fait de ces grands espaces, de ces perspectives.
Marc-Antoine Mathieu.
De son horizon qu'on retrouve tôt ou tard. Pas beaucoup de villes qui sont comme ça.
Et en même temps, c'est toujours en rupture avec une échelle de la ville elle-même et de son architecture très très modeste. C'est une petite ville, très étalée, mais pas du tout en hauteur. Mais par contre, dans le port, effectivement, il y a des échelles énormes. Cette base, les bâtiments industriels, et puis les bateaux, les paquebots, qui donnent en fait l'échelle à la ville. Quand ils apparaissent dans le port, ils sont souvent beaucoup plus grands que la ville elle-même. Et donc, ce qui est très frappant ici, c'est qu'au quotidien, on est quand même confronté toujours à la question de la monumentalité, quoi.
Je sais pas ce que t'en penses, Elisa, mais là, on est complètement dans une scénographie de théâtre, quand même.
Ouais, parce qu'on met des choses dessus, mais justement, il faudrait réussir à regarder ça sans mettre des choses dessus. c'est ça l'exercice ici. C'est tellement immense et c'est tellement du passé qui est proche, mais qui est du passé quand même, qu'il n'y a pas d'usage qui se dessine. Donc on a envie de dire il faudrait y faire ça, on pourrait y voir ça. Mais moi je trouve que c'est encore mieux de se nettoyer de ce qu'on pourrait y mettre.
C'est vivant, c'est vraiment comme un organisme vivant. Et qui, je sais pas, j'ai l'impression de quelque chose qui respire, qui se contracte, qui se dilate, qui s'effrite un peu, voilà. Donc c'est pas du tout un endroit inerte. Et
pourquoi ça s'appelle Life avec un I plus petit que les trois autres lettres?
Parce qu'initialement, c'était un acronyme pour dire Lieu international des formes émergentes. C'était le nom initial de ce lieu qui formait le mot life, la vie, en anglais. Et,
pourquoi le i plus petit?
Parce qu'international, je ne sais pas. Parce que
c'est
si.
Une coquetterie graphique.
Non, en fait, si je me souviens, en fait, c'est l'histoire du projet. C'est parce qu'au départ, ça s'appelait le LFE, le lieu des formes émergentes. Et le premier directeur de cet endroit a décidé d'égliser un petit i juste pour signifier international des formes émergentes.
Et en fait, pour faire life.
Et pour faire life, oui. Pour faire vie, voilà, avec tout le symbole que ça voulait dire de voilà, que par la culture, par le regard des artistes, on allait régénérer aussi une partie de cet endroit.
Et quand on fait une exposition qui s'appelle « Sens au life », il y a des jeux de mots qui arrivent immédiatement. Hein. Le sens de la vie, science et vie.
Bien sûr. D'autant que le sens, en fait, c'est S-E-N-S, S.E.1, et que life, c'est un peu pareil. Donc, ça collait bien. Ouais.
Il faut mettre le plus petit.
Ben oui, bien sûr, puisque sens et non-sens. Donc le E peut être plus petit.
Cette base de sous-marin, comme il n'y a plus de sous-marins, donc elle a été asséchée, mais il y a toujours beaucoup d'humidité.
C'est
on
clair.
On entend l'eau, on entend le...
On entend l'eau, elle est partout. En fait, d'abord, on est au bord des bassins, et puis elle est extrêmement poreuse, cette base. Elle a beau être construite avec des murs d'une épaisseur de plusieurs mètres de béton, elle est fendue et de partout.
L'eau pénètre.
Oui.
Il y a quand même un système de soufflerie d'air pour renouveler l'air dans le life et pour tenter de contrôler un petit peu l'hygrométrie.
Franck Bertrand.
Et ne pas avoir des taux d'humidité équivalents à un univers tropical. Hein. Mais c'est vrai que certains médiums sont difficiles à présenter. Des œuvres sur papier. La photographie, par exemple, mais on peut trouver des moyens de présenter les œuvres peut-être sur d'autres supports, les faire exister autrement, enfin de faire exister une image différemment.
Les grandes sculptures en métal déjà rouillé, c'est bon?
Si c'est pris en charge par l'artiste, oui.
Qui fort, ouais, c'est jouable.
Oui, Richard Serra, on attend.
Richard Serra, tout à fait.
Ouais. Là, on arrive
donc autant remplir ce grand vide avec du vide, tant qu'à faire. Mais on y reviendra tout à l'heure. C'est pas que c'est trop grand, c'est un lieu improbable, impossible. Tu disais tout à l'heure, c'est vraiment ça. Donc à partir du moment où c'est impossible, autant le prendre comme tel et autant faire l'impossible avec. Voilà, donc là c'était l'occasion de se faire rencontrer un bout de vide qui était en deux dimensions dans un livre et de le faire se croiser, l'hybrider avec un lieu rempli de vide en 3D. Quoi.
Donc on monte, on va vers les jardins.
Ouais.
Alors les jardins c'est.
On peut y aller par là. On peut y aller par ici, c'est plus proche par là.
On voit bien l'épaisseur des murs qui ont été abattus, hein, qui fermaient la base côté ville. Elle était complètement opaque et fermée. Et au moment du projet de reconversion, l'architecte a proposé d'ouvrir certaines de ces alvéoles de manière à avoir une percée comme ça visuelle sur le port et sur l'eau. Il a fait créer une très très grande rampe pédestre qui permet donc d'accéder au toit, qui est devenu une grande terrasse, un belvédère en fait.
Avec les jardins de Gilles Clément.
Avec les jardins de Gilles Clément.
Gilles Clément, comment êtes-vous arrivé à Saint-Nazaire, j'allais dire sur les toits de béton du Life?
Oui, alors je suis arrivé à Saint-Nazaire à la suite d'une demande de Jean Blaise, qui dirigeait à ce moment-là le lieu unique, aujourd'hui est au voyage à Nantes, pour proposer à des artistes sur un parcours situé entre Nantes et Saint-Nazaire un certain nombre de lieux qu'ils pouvaient choisir. Et j'étais à ce moment-là avec d'autres dans un bateau. Ils nous ont montré un peu tous les lieux, toutes les étapes, la dernière étant le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Moi, je suis jardinier et j'arrive sur le béton. Et là, je suis séduit parce que je me dis, il y a un défi, c'est intéressant. On peut parler de ces plantes qui ont capacité à vivre dans les conditions les plus difficiles. Et d'ailleurs, bien qu'à cette époque, quand on m'a fait visiter, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien qui poussait, on m'a bien dit, il y a 3 ans... on a fait nettoyer la base, que j'ai trouvé un peu dommage, parce que j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait. Il paraît qu'il y avait même un pommier qui poussait, je ne sais pas très bien où, mais il n'y avait plus rien. C'était complètement, comme on dit, nettoyé, ce qui n'a rien dire pour un jardin et rien dire d'un point de vue biologique.
On ne peut jamais tout nettoyer, de toute
jamais,
façon.
Non, mais c'est une espèce de fantasme qui vient d'on ne sait pas quelle idée de la maîtrise de l'espace absolument absurde. Donc j'ai fait un projet pour ce lieu, qui n'a pas été exécuté tout de suite, mais 2 ans plus tard, pour l'une des biennales. Et on a mis un certain temps à réaliser, avec aussi l'aide des étudiants du lycée Jules Rieffel, qui ne sont pas loin. Et une partie de ce jardin est aujourd'hui sous la surveillance de ce lycée, d'ailleurs. C'est la troisième partie, celle qui est qu'on appelle le jardin des étiquettes. Et aussi, il y avait, pour le montage, des gens de la ville de Saint-Nazaire et puis des gens du collectif Coloco avec lequel je travaille souvent. Voilà, ça a été un jeu, ça a été très amusant. J'avais fait un plan, on respectait, mais en même temps, on interprétait aussi. Et puis, ça a été une occasion pour parler avec des techniciens du département des espaces verts de la ville et les amener à regarder pas tellement les plantes qu'ils connaissent bien, mais le mode de gestion autrement.
Comment il s'appelle le nouveau bateau qui est en train de construire, là, qui est en train d'acheminer?
Il avait un nom temporaire qui était Oasis 3. Parce qu'il y a eu le Queen Mary 1, le Queen Mary 2. Ils n'ont pas réitéré Queen Mary.
Mais c'est fou parce que ce nom est complètement mou, alors que le Vladivostok, au moins. Vrai nom, quoi. C'est un bâtiment de guerre.
La luminosité est très forte tout d'un coup.
Le ciel devient si clos, là. Ah, voilà, ah, ça se découvre. Il y avait finalement. On s'aperçoit qu'il n'y avait pas beaucoup de nuages. De fine épaisseur.
On va vers les jardins, donc.
On va commencer par le bois des Trembles, et puis après on repart comme ça, et puis du coup on revient vers le lac.
J'ai appelé ça le jardin du tiers-paysage. Le tiers-paysage, déjà, c'est toute une histoire, toute une définition que je donne aux espaces en déprise. Tout ce qui n'est pas exploité par l'homme, et qui parfois l'a été, ne l'est plus, et qui sert de territoire de refuge à une diversité qui est généralement chassée de partout ailleurs. Par l'activité humaine, qu'elle soit agricole, industrielle, urbaine, etc. Il y a des fragments du tiers-paysage partout, et il y a des espèces très intéressantes qui s'installent là, et qui justement n'ont pas besoin de nous, mais qui peuvent, si on les organise dans l'espace, faire un jardin. Donc je suis allé choisir plutôt, d'après le nom que je connaissais, les espèces qui vivent dans ces conditions, qui sont pour partie des graminées, des crassulacées, des fétuques, ou ce qu'on appelle les sédums, les orpins, ou bien d'autres, hein, qui sont des géraniums vivaces, qui sont des euphorbes, il y en a des remarquables, vous avez dû en voir certaines, en proposant de les installer dans quelque chose qui était un caillouteau où il y a 10 cm de substrat, rien du tout, quoi. Et c'est ce que nous avons fait. Ça s'appelle le jardin du tiers paysage, Mais il y a quand même une partie artificielle, c'est celle qui est dans la chambre d'éclatement. Cette base sous-marine n'a pas été achevée par les Allemands. Ils n'ont pas pu parce que la guerre s'est terminée avant. Elle est destinée à protéger les sous-marins. On a une dalle qui fait 9 mètres d'épaisseur, le tout est perché à 20 mètres. Et dessus, ils ont posé ce qu'ils appellent les chambres d'éclatement, qui sont en somme des murs parallèles entre eux, séparés d'une dizaine de mètres, pas même pas, et sur lesquels il y a très régulièrement placé des poutres de béton, tout ça, très proches les unes des autres. Et le but était de faire exploser les obus à cet endroit et non pas sur la dalle, pour protéger les sous-marins en dessous. Un seul tiers de la surface a été réalisé de cette façon. La guerre s'est arrêtée, le reste n'a pas été fini. Deuxième tiers, il n'y avait que les murs et pas les poutres. Troisième tiers, il n'y avait rien. J'ai divisé le projet en trois. Et dans le premier, on voit des arbres qui sortent des chambres d'éclatement. Ça, c'est la partie artificielle.
Ce sont quels arbres ?
Des trembles. Pour faire trembler la base.
Mais c'est très important, les noms, non ?
Très.
Avouez que si vous êtes jardinier, c'est par amour des noms.
Oui, c'est aussi par l'amour des noms. C'est par d'abord la surprise et l'admiration devant le monde vivant et le monde végétal en particulier, mais aussi les insectes, plein d'autres choses. Et puis les noms, c'est très important. Si on l'appelle tremble, c'est pas par hasard. C'est parce que les feuilles tremblent au moindre souffle de vent. Mettre ça sur le toit d'une base, on était sûr que ça tremblerait tout le temps. Et c'est ce qui se passe, donc c'est assez beau, ça fait un scintillement. En même temps, c'est une plante du bien paysage, une plante qu'on plante presque jamais. Elle est naturelle, elle existe partout et pas mal au bord de la Loire, à côté. Donc c'est un rappel qui est logique, si vous voulez.
On est dans des sous-sols, mais qui sont sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire, et on est dans les sous-sols du jardin, du toit. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Et on voit des arbres, des mottes de racines encagées dans des sous-sols qui est lui-même grillagé. Donc quelque chose de complètement antinaturel. On ne peut pas imaginer un plus antinaturel. Mais au-dessus, le résultat, c'est une petite forêt, un petit bosquet qui s'étale sur le toit.
L'éruption de la couleur, c'est le vert qui évidemment apparaît, mais qui est aussi la couleur des traces sur les murs liées à différents effets d'humidité.
Ouais, des espèces de mousse en fait qui s'installe dans le béton. De toute façon,
c'est
béton.
C'est gris et vert en fait.
Voilà. Et blanc le sel. Hein.
Et blanc le sel.
De sel là qu'on voit. Ouais.
Mais étonnamment, le béton. Enfin, je dis étonnamment parce que moi, ça m'étonne toujours, mais. Effectivement, la minéralité n'évoque pas le végétal. Or, ce lieu, il y a des plantes qui poussent dans le béton, qui s'installent. Quand on se balade, on voit bien toujours ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et quand la ville a décidé, enfin, est remontée sur le toit la première fois, en fait, ici, c'était un véritable jardin naturel. Et c'était très, très vert, en fait. Et la vie reprend naturellement ses droits.
La deuxième partie, pratiquement il n'y a pas d'artifice. Et même s'il est arrivé dans des périodes de canicule qu'on doit arroser, on ne fait presque rien. Ce sont des plantes adaptées précisément au lieu, au climat, acceptant la dureté, le vent, tout. Et le peu de sous-sol, il n'y a pas de nourriture. Enfin, bon, ce sont des plantes frugales.
Les orpins, on les trouve sur les rochers, dans les îles.
Les orpins,
partout.
On les trouve un peu partout. Il y a le réflexeux, enfin celui qui est comme ça, qui a une espèce de tête qui penche et qui se redresse en fleurissant, qui est très très commun dans les sols acides. Il y a le hâcre qui lui est tout petit, tout nain, avec un jaune vif de floraison qui pousse un peu dans toutes les fissures. Et il y a le blanc qui est magnifique et qui est sur les roches à l'état naturel. Il y en a vraiment partout du nord au sud de la France, mais on n'y fait pas toujours très attention. C'est une plante discrète qui est utilisé parfois pour les couvertures, les toitures, ce qu'on appelle les toitures plantées. Là, il y a parfois l'usage des orpins. Sinon, ils ne sont pas très très connus et pas très utilisés.
Ça intéresse les poètes.
Entre autres.
Wow. Voilà, on peut même imaginer qu'il y a des grenouilles qui coassent là, hein, le soir. Hein. Tu vois, là, c'est vraiment un décor à grenouilles.
On entend les grenouilles.
Et la troisième partie, alors là, il n'y avait rien. Et j'ai rien planté. On a quand même mis 10 cm de caillouti et de je sais pas quoi, pas grand-chose. Et là, on attend que ça se passe. C'est-à-dire que on attend que le vent, les oiseaux, apportent les semences. Et ça pousse, car il y a toujours des semences partout qui arrivent de tous azimuts et elles ne cessent de voyager. Et le travail des étudiants du lycée Jules Rieffel est de venir reconnaître les espèces en somme pionnières, celles qui arrivent tout au début, et petit à petit, celles qui les remplacent. Ce qui fait que maintenant, depuis 3 ans, ils ont 3 relevés par an, avec un enseignant, Philippe Ferrard, qui est botaniste et qui s'occupe, professeur de botanique au Jardin des Plantes de Nantes, et qui vient avec eux et qui fait ce relevé. Donc ils voient avec les études qui s'accumulent comme ça, l'évolution. Et ils étiquettent aussi à chaque fois.
Ouais, ça c'est le jardin des étiquettes. Donc là c'est des tentatives en fait de germination.
Qu'est-ce qu'il y a marqué?
Alors 7 mai 2015, première fois, Bromus ordacens, subs ordacens, OAC. De Brona, moi.
Philago minima, Asteraceae. La cotonnière noire.
Il y a des dates surtout.
Alors le problème étant, est-ce qu'on laisse l'étiquette d'une plante qui a disparu? Une annuelle, elle disparaît après avoir fait les graines. Si on le fait, il y en a quand même beaucoup au départ, des annuelles et des bisannuelles, on va finir par en avoir plus que des étiquettes dans l'espace, on ne va plus rien voir. Alors donc on a dit non. On ne fait pas ça, on va mettre les étiquettes sur les plantes qui sont là et qu'on peut voir en même temps.
Ça aurait été beau pourtant, ça. Cimetière d'étiquettes. Alors peut-être que comme dans les cimetières, il faudrait mettre 2 dates.
Oui.
La date où on a mis l'étiquette parce qu'on a reconnu une plante, ouais. Et la date où la plante n'y est plus.
Oui, c'est vrai. Mais alors à ce moment-là, ça surchargerait en étiquettes. Ça deviendrait une œuvre d'art, hein, d'étiquetage, mais en même temps obscure, enfin pédagogiquement difficile à lire. Donc on a décidé plutôt de prendre des photos à partir du même angle pour montrer aux étudiants à chaque fois comment ça se transforme.
Vous avez parlé du vent, il y a la lumière aussi, évidemment.
On est en pleine lumière, là. Vraiment.
Complètement.
Oui. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est très important puisqu'il n'y a pas d'ombre portée qui vienne de nulle part. Dans une zone côtière qui est battue par les vents, et même s'il ne fait pas beau, je dirais, il y a de la lumière. Et la lumière est tout le temps présente. On a là que des héliophiles, ce qu'on appelle des héliophiles, c'est les plantes du soleil.
Vous trouvez qu'il y a une lumière particulière à Saint-Nazaire?
Ah oui, comme sur toute la Loire aussi.
Très différente de celle de Nantes, par exemple?
Non,
ou...
non, pas extrêmement différente, mais on a quand même la perception de l'horizon, puisqu'on a la mer, et à Nantes, on n'a pas tout à fait ça. Mais on a la lumière de la Loire, qui est quelque chose qui va avec cette espèce de force, intensité, assez loin à l'intérieur des terres, je trouve. Et qui est spécifique de ce fleuve en France, très intéressant. En plus, fleuve bordé souvent de plantes comme des saules, qui ont des feuillages lumineux aussi.
Donc voilà le fameux radôme. On se trouve dans le radôme, qui est posé sur le toit de la base, et qui est donc une structure géodésique qui abritait un radar de l'OTAN à Berlin, dans l'ancien aéroport de Berlin-Est, Tempelhof. C'est un espace acoustique particulier, puisque si, par exemple, on se met au centre de ce dôme et que l'on produit un son, on s'entend soi-même, enfin ça résonne énormément. De même que si je suis au centre et que vous êtes... à l'extrémité du lieu, en train de discuter, même à voix basse avec quelqu'un, je vais vous entendre comme si j'étais à côté de vous. Donc il y a une propagation du son qui est particulière.
Oui, à propos du son, c'est très spécial ici. Quand on est proche des parois, si on parle, on chuchote, le son tourne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à l'opposé entend ce qu'on dit. Et quand on se situe au centre, on a l'impression d'avoir la tête dans un bocal. Quand on parle. Ici, par exemple. Si on fait A, 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 A. Je suis Franck Bertrand, je suis chargé de production au Life.
Je suis Elisa Fache, collègue de Marc-Antoine Mathieu à Lucilum, puis compagnon un peu de réflexion sur le sens et le non-sens.
Marc-Antoine Mathieu, graphiste, scénographe.
Sophie Legrand-Jacques, directrice du Centre d'art contemporain Le Grand Café.
Il y a aussi le béton en tant que matière, mais aussi couleur. Est-ce que la couleur a un grand rôle dans cette
affaire ? Très important. Très important. Je suis allé au Japon pour la première fois de ma vie cette année. Et j'ai été un peu surpris parce que c'est la planète Mars. Hein. On est dans une culture...
Pour un jardinier, c'est quand même...
Merveilleux, oui. J'avais évidemment mis mon nez dans tous les ouvrages, vu plein de photos, etc. Mais y aller, c'est autre chose, parce qu'on est confronté au rituel, aux sourires, aux absences, aux gestes, enfin, un certain nombre de choses. Et il y a un paysage de jardin qui m'a surpris. C'est l'un d'eux où il y a, en pleine fin d'hiver, mois de mars, des territoires blancs par terre au sol, blanc paille, couleur paille, un peu comme cette paille, comme ça. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la pelouse. C'est-à-dire qu'en plein hiver, ils ont une graminée qui constitue la pelouse, qui l'été sera verte, et l'hiver est comme chez nous, elle était dans les pays secs, c'est-à-dire qu'elle est blonde. On a donc là une couleur extrêmement claire, comme peut l'être le béton à la base de Saint-Nazaire, qui valorise tous les éléments qui sont un tout petit peu plus sombres. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ça donne de la profondeur, c'est un fond. Et l'usage de ça, on ne l'a pas chez nous, puisqu'il y en a même qui ne veulent pas que ça sèche. On arrose. Ou en Californie, comme vous le savez peut-être, depuis 3 ans, ils ont cette sécheresse, ils ne supportent pas le gazon qui n'est pas vert, ils le peignent. Avec des pinceaux, quoi. Il y a une entreprise qui fait ça. Ça existe.
On va ouvrir le rideau, alors.
Comment on rentre dans cette... Alors déjà, nous sommes dans une installation donc qui s'appelle SENS ou SENS ?
Les deux.
S point, E point, N point. On dit ce qu'on veut.
Oui, SENS. SENS et non-sens. Et on rentre par une forme de mystère. Hein. C'est un grand rideau noir qui peut rappeler le théâtre, qui peut rappeler un... comment on pourrait dire, une irruption dans l'intime, dans notre intime. Mais on ne le sait pas, en fait. On ne sait pas où on va. Donc, ça peut être un peu inquiétant pour certaines personnes. Certaines personnes se disent, oula, où est-ce qu'on m'emmène ?
On rentre dans l'installation en sortant du monde, entre guillemets, normal.
Monde, progressivement, en fait.
Ouais. Et donc, c'est une initiation. On ne rentre pas comme ça. Ouais. On garde nos chaussures ?
Oui.
Important.
Voilà, donc, là, je suis guidé par des bruits de pas au loin qui semblent se caler sur mes pas, en même temps que dans ce couloir qui se rétrécit presque de manière inexorable, mon ombre projetée sur tout l'ensemble du couloir se rétrécit, diminue jusqu'à devenir à ma taille.
Dans son...
On est sur du sable là.
Oui, ça y est. Ouais.
Est-ce que c'est du sable de Saint-Nazaire ?
Non, c'est du sable de l'universel. C'est un sable qui nous fait prendre conscience qu'on a encore des pieds à ce stade-là. Et là, on débouche sur un espace. Grand qui peut nous échapper, hein, et on est face à une grande page blanche froissée, espèce de page paysage sur laquelle un individu marche tranquillement de manière un peu sereine.
C'est une projection.
Oui.
C'est un fantôme, c'est un ectoplasme.
Voilà, c'est un jeu avec l'ombre du visiteur qui se projette sur l'espace et dans laquelle s'inscrit ce personnage qui marche hein, en blanc. Il est blanc sur fond noir. Et voilà, donc il y a eu comme ça une espèce de passage de relais, de transfert ouais, entre moi, visiteur, et ce personnage qui va être censé nous prêter son regard dans l'expérience qu'on va vivre tout au long de...
En fait, on poursuit notre ombre du couloir jusqu'à l'intérieur du personnage.
Elisa Fache. Pourquoi il y a une chaise et une table avec un tiroir ouvert?
Pour donner un peu l'échelle de ce grand décor paysage, déjà, d'un point de vue un peu de stratégie scénographique. Fin. Et puis, c'est aussi l'absence de l'homme. Fin.
Ouais, l'absence du héros, ou l'absence du non-héros, ou la non-absence de moi-même, on ne sait pas trop. En fait, ça fait partie de ces objets. Quand on met un objet comme ça, vraiment tout seul, il doit avoir plein de significations. C'est un terreau à l'imaginaire, en fait. Nous-mêmes, je ne suis pas bien sûr si... Je ne pense pas qu'on soit très bien sûr de savoir pourquoi on a mis une table et une chaise, en fait. Mais simplement, il y a des moments comme ça où des objets un peu s'imposent. C'est un peu comme le pendule lampe. Pourquoi ? Difficile de le dire vraiment. Mais il a du sens.
C'est pour indiquer
quel sens
le
ça,
temps.
C'est à chaque visiteur de le trouver, ce sens.
Ça métronome, ça métronome.
Bien sûr, ça dit aussi ça. Mais ça peut aussi dire plein d'autres choses.
Ce qui est bien, c'est qu'on n'ait pas toutes les réponses.
Voilà, c'est ça.
Au départ, c'est un livre... fait par une personne, qui s'appelle donc Marc-Antoine Mathieu. Par contre, ça, ce n'est pas une œuvre de Marc-Antoine Mathieu.
Voilà, c'est une transposition qui a été faite par Lucilum, l'atelier de scénographie au sein duquel je travaille, hein, donc avec Philippe Leduc et Elisa Fache. Voilà. Et là, donc, il s'agissait non pas évidemment d'illustrer le livre, mais bien de le transposer et d'en faire quelque chose... De le faire se rencontrer avec ce lieu du life. Et voilà, donc il y a des éléments du livre qu'on retrouve, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui ont été faits en résonance avec le lieu, avec ce lieu si particulier, cette espèce de grande
et
boîte de vie du life.
Et avec le visiteur aussi, parce qu'on n'a plus de lecteur et on a un visiteur. Ça a à voir avec l'espace et le lieu, mais c'est pas que le lieu lui-même, on l'aurait pas construit comme ça, notamment dans le cheminement et la progression dans le temps. Si il n'était pas parcouru par des visiteurs.
Disons qu'il n'y a pas la même linéarité, quoi, qu'on peut lire un livre comme on veut, mais quand même la plupart des gens lisent le livre de manière linéaire, d'autant plus que la flèche qui est en première page donne le sens de lecture, qui est le sens de lecture de tout livre, en plus, c'est-à-dire de page après page, de haut en bas et de gauche à droite.
Oui.
Alors que là, on peut revenir sur ses pas.
Oui, non, c'est-à-dire que la première partie est quand même linéaire dans la mesure où on contraint le visiteur à faire un cheminement, où on le contraint de certaine manière, à, comme disait Lisa tout à l'heure, de le dépouiller du réel qu'il doit un peu laisser, on va dire, dans l'antichambre, sur le proscenium. Et ensuite, voilà, il le laisse là, en fait, dans le sable, hein, dans cette poussière. Et ensuite, une fois qu'il a considéré le temps et cet espace-là, alors peut-être il peut aller dans la deuxième partie de l'installation, où là il est un peu voué à lui-même et à sa propre lecture. Et là, on est dans la non-linéarité, mais on est quand même dans une installation qui propose un récit séquentiel, dont évidemment le visiteur choisit ses propres séquences. Et le but du jeu, là, pour nous, c'était amener le visiteur dans un rapport complètement intime à des images qui présentent du vide, de l'horizon, avec un travail poétique sur le temps et sur l'espace.
C'est agréable de dessiner des flèches.
Ce qui était agréable, c'était de dessiner la flèche. Trouver la flèche vraiment universelle. Donc voilà, comment agencer un triangle équilatéral avec un parallépipède de manière à ce que tendre vers quelque chose qui devrait être la forme, la flèche. Bon.
Et combien de flèches dans le livre ?
Ah, je ne sais pas, je ne les ai pas comptées.
Beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Il y en a... parce qu'à un moment donné, elles sont contenues dans...
L'ensemble du sable du désert, chaque grain est une flèche, donc on ne peut pas les compter. Celles qui sont visibles et celles qui ne sont pas visibles.
Voilà. Une obsession du grain de sable dans ton travail, Marc-Antoine?
Un peu une obsession de l'infini, sans doute.
C'est une image de l'infini, le sable?
Oui, d'une forme d'infini, parce qu'on a chacun notre vision de l'infini. Mais cet infini-là pourrait rejoindre l'idée des multivers, c'est-à-dire que au-dessus du rien, au-dessus du vide, il y a les flèches qu'on voit, qu'on a visibles, alors sous forme de marche, sous forme de boussole ou sous forme de monolithe dressé. Et puis, il y a effectivement, comme disait Elisa, toutes les flèches comprises dans le sable, qui sont tous les possibles de toutes les flèches. Donc là, on est dans une espèce d'infini complètement fractal, où tous les possibles pourraient se ramifier en même temps. Et c'est vrai que si on adhère au multivers, à ce moment-là, effectivement, comme tous les possibles sont possibles, on va dire que tout l'univers pourrait se résumer à la logique, en fait, à de la logique pure.
Feuille de papier froissée devient un paysage, comme une sorte de relief montagneux, et il y a un ciel sur lequel il y a des signes qui... C'est quoi ces signes?
C'est un vol des tourneaux, donc quand on le regarde comme ça,
on dirait une galaxie.
On voit un vol des tourneaux qui se déforme, c'est-à-dire des milliers d'individus, de particules qui virevoltent. Et à un moment donné, on s'aperçoit que ça s'agence et que ça forme un peu comme une galaxie spirale vue sur la tranche. Et à un autre moment, ça se redéforme, ça se reforme pour former le signe de l'infini, un peu comme par magie. Enfin, mais si on explore tous les possibles, un vol des tourneaux, on pourrait tout à fait imaginer qu'à un moment donné, si un vol des tourneaux vivait des milliards d'années et tournoyait un milliard d'années, à un moment donné, il pourrait donner le signe de l'infini, tout à fait, comme il pourrait faire la lettre A. C'est très improbable, mais ça doit être possible. Et on s'aperçoit, en s'approchant, ou alors quand le vol des tourneaux se fait un peu plus présent, qu'on s'aperçoit que chaque point, en fait, c'est une flèche. Donc c'est un vol des tourneaux flèche.
Et puis c'est la même chose que le personnage qui se disloque quand on n'est plus en face, c'est que c'est notre regard qui construit un personnage, c'est notre interprétation qui voit une galaxie, qui voit un signe infini. Chaque forme est unique et particulière et disloquée et dépourvue de sens, c'est ça aussi.
Là, la musique va surgir, on peut dire de qui elle est?
Oui, bien sûr, et de Patrice Ruppalo qui travaille souvent sur nos expositions et nos installations. Et là, pour l'occasion, il a sculpté un environnement sonore et musical qui est composé de plusieurs plages comme ça de sons épurés et qui tous fonctionnent d'une manière aléatoire entre eux.
Visiteur, c'est le personnage, en fait.
Oui, complètement. C'est un peu cette idée, exactement comme dans le livre. Alors, est-ce que ça marche aussi bien que dans le livre? Ça, c'est encore une fois, c'est au visiteur et au lecteur de le dire. Mais le personnage, bon, on le voit toujours que de dos dans le livre. Et pour cause, si on voyait son regard, on pourrait pas s'y incarner. Il pourrait pas s'incarner avec notre regard. Meilleure manière pour qu'on devienne le personnage et qu'on se mette à sa place, c'est effectivement de pas le montrer, comme si son visage caché derrière sa nuque, enfin de l'autre côté, était notre propre masque. Mais donc on a repris cette idée dans l'exposition.
Mais c'est forcément un homme.
Oui, c'est une silhouette.
Le code, le signe de l'humain universel sera une femme, on mettra une femme. D'accord. C'est vraiment pas la question.
Oui, mais c'est vrai que c'est une question quand même assez intéressante, parce que si c'était une femme, c'est vrai. Il aurait pu être un genre de Tintin, par exemple. Peut-être chaud.
Tintin, c'est Bécassine avec une houppe.
Oui, c'est ça.
Oui. Ouais.
Oui, c'est vrai que c'est pas un ange, c'est un archétype d'humain, on va dire, mais c'est pas un ange non plus, c'est vrai.
On est plutôt en enfer parfois quand même, non ?
Nous, on y a mis en tous les cas, je pense, de la sérénité, exactement comme le personnage dans le livre est serein finalement. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a normalement pas d'angoisse. Alors après, effectivement, en fonction peut-être de l'état dans lequel on est, enfin, les sentiments qui peuvent nous habiter au moment où on visite, où on pérégrine dans cette installation, ou au moment où on lit le livre, on va y mettre évidemment les sentiments qui nous habitent à ce moment-là. Mais l'installation comme le livre ne véhicule absolument aucune idée, absolument aucun message. Si ce n'est peut-être une vanité, ça sans doute.
C'est l'ennemi le message, non ?
Oui, complètement, toujours, ouais, bien sûr.
Tous les messages qu'il a.
Moi j'ai pensé, après avoir visité une première fois cette expo, à une phrase de Nietzsche que Jean-Luc Nancy a mis en exergue de son livre « Le sens du monde ». Introduire un sens, cette tâche reste encore absolument à accomplir, admis qu'il n'y réside aucun sens.
Ah, voilà, c'est de la mise en abîme philosophique.
Ça te va pour ton travail ?
Génial.
Bien, pour moi, j'aurais beaucoup de mal à ne pas donner du sens au travail que je fais.
Gilles Clément.
Sinon, ce serait que de la décoration.
Le sens, c'est ce qui va au-delà de la décoration.
Ah, mais bien sûr. Bien entendu. Nous avons une obligation de la résolution esthétique. Et qui peut apparaître comme un effet de décoration. Ça, c'est possible. D'organisation dans l'espace, en tout cas. Nous sommes des compositeurs. Et c'est une obligation d'avoir une dimension artistique dans ce métier. Mais l'art, c'est pas ça, en fait. Hein. C'est pas uniquement de la décoration. Sinon, c'est juste l'ornement, ça s'arrêterait là. On fait ça pour une raison, pour quelque chose. On raconte quelque chose. Alors, quelquefois, c'est pas toujours formulé, mais ça l'est quand même souvent. Et pour moi, je dirais presque toujours. Et déjà, un jardin, c'est un lieu où, historiquement, on accueille quelque chose que l'on estime comme étant le meilleur et le plus important. Au départ, c'est vivrier, et on le protège, c'est un enclos. C'est la définition du jardin. Bon, en même temps, c'est aussi un paradis, ça c'est une autre histoire qui vient se greffer là-dessus, mais c'est d'abord ça. Mais petit à petit, ça se transforme en quelque chose qui est que le meilleur, le plus important, n'est pas seulement et uniquement vivrier, il est un message. Il est quelque chose qu'on raconte aux autres. À l'époque où l'on vit, on veut leur dire. Voilà ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que l'écriture des jardins, elle est différente dans le temps, stylistiquement, parce que l'idée du meilleur change.
Et la deuxième salle, ce sont des projections ?
Alors ce sont des fragments, des espèces de... C'est comme des états mentaux. Alors, est-ce que ce sont des souvenirs ? Est-ce que ce sont des projections ? Est-ce que ce sont des fragments de rêve ? C'est peut-être tout ça à la fois. Ils sont à regarder comme des instants, comme si le temps s'était arrêté, mais qu'il glissait.
Est-ce que c'est la différence essentielle avec le livre, le fait que le support ne soit plus plan, soit plus plat? Parce que le livre, forcément, les feuilles, à moins de froisser toutes les feuilles dans un livre, ce qui serait assez étrange. Ici, tous les dessins qui sont plus ou moins issus du livre, si j'ai bien compris, sont projetés de manière à être transformés par le fait que le support ne soit pas plan.
Ouais, bah, c'est-à-dire que si le support avait été plan, on aurait retrouvé où la page, enfin, où la case, où justement le côté écran. Là, le fait qu'il soit figé dans l'espace et froissé peuvent donner l'illusion qu'il y a comme quelque chose, comme un vent qui emmène ces choses vers un ailleurs. On peut imaginer qu'il y en ait d'autres plus loin, plus petits. Voilà, donc le côté froissé, il fallait que, évidemment, il fallait que ce froissage-là ait un caractère aléatoire, exactement comme une feuille dans le vent. C'est le vent qui l'emmène. Donc là, on est vraiment dans le thème, enfin dans la chair de l'installation. Le vent étant quelque chose de tout le temps pareil, en même temps tout le temps renouvelé en permanence. Donc c'est vraiment la vie.
C'est comme si le vent avait emporté des pages.
Voilà.
Et l'humidité les aurait déformées, et le vent les aurait entraînées, ce qui fait que, on ne l'a pas dit, mais ces écrans supports, non plans, ne sont pas verticaux non plus.
Non, c'est ça. C'est d'ailleurs. Après, on peut, si le visiteur passe à côté, c'est très bien aussi, mais c'est la même matière que la carte paysage que dans la salle précédente. C'est des morceaux échappés de la carte, dans le sens où la carte, on peut imaginer que la carte est infinie, et là, on a juste un extrait de quelques visions mentales, mais il pourrait y en avoir 200 000 ou à l'infini autour de nous, ou n'en rester plus qu'un seul. Enfin...
Et ça mène où, ce jeu de flèches ?
Eh ben, ça mène à soi-même. Hein. C'est fait pour ça, normalement. C'est fait pour amener à soi-même, mais comme toute contemplation de n'importe quelle œuvre d'art ou de l'œuvre de la nature. Arriver simplement à mettre suffisamment de distance entre soi et le monde pour pouvoir mieux, encore mieux justement, le prendre dans son instant. Et donc pour ça, il fallait ralentir le temps, il fallait peut-être dilater l'espace. C'est par des stratagèmes comme ça qu'on peut peut-être avoir des expériences un peu nouvelles de soi-même, dépouiller un petit peu de tout.
Et toutes ces images-là... C'est la distance du personnage. Voilà. Qu'on se quitte pour se retrouver aussi.
Voilà. Alors dans le livre, les 250 pages qu'on tourne au fur et à mesure, à son propre rythme, déjà le fait de les tourner au rythme qui nous est propre, en soi, ça c'est un acte d'aller d'un retour vers soi, à son soi intime. Donc là, on est dans de la contemplation, un exercice presque zen même.
On est dans un monde non verbal.
Ah, complètement. Ouais. Et même non imagé. Moi, je sais que des fois, j'ai la sensation justement de vouloir faire aussi un dessin invisible, dans la mesure où. Le dépouillement du trait et le rendre le plus lisible possible, c'est aussi certainement la volonté de le rendre invisible. De la même manière qu'ici, ralentir le temps le plus possible et épurer à ce point l'image et le rythme et le tempo des images, c'est certainement aussi, à un moment donné, pour arriver à les rendre invisibles. Et c'est à ce moment-là, peut-être, qu'on peut se rendre visible à soi-même. C'est un peu comme les yogis qui vont regarder un caillou pendant assez longtemps pour justement pouvoir ne plus le voir.
C'est le même sens signe, parce que du coup, à force de démultiplier le signe, on l'épuise jusqu'à ce que le signe soit plus que la forme du signe. Enfin, comme un visage qu'on regarde trop longtemps dans le miroir, ou un mot qu'on a trop longtemps en tête... La matière des choses elle-même devient juste ce qu'elle est.
Ouais. Là, évidemment, à force de voir la flèche, elle n'a plus de sens. J'espère. Tiens. C'est étonnant, c'est quoi ça, ce son ? L'orage ? Non ?
C'est juste un charme qui est.
Les fantômes des wagonnets nazis.
Mais bizarrement, justement, il a beau être très massif, très très costaud, évoquer la puissance et la solidité, en fait, tous les sons passent. Tout à l'heure, ce qu'on entendait, c'est quelqu'un qui était sans doute en roller sur le platelage. S'il y a un peu de musique en face, on entend tout. Donc finalement, il est... Les murs sont très poreux et...
Même s'ils ont 9 mètres d'épaisseur.
Il est très fragile, en fait.
Oui.
C'est
une peau.
Ouais.
Oui. Un tuyau,
c'est la question de la vibration.
Il faut écouter les plantes.
Ah, bien sûr, ça, c'est encore autre chose. Là, en ce moment...
C'est un art de l'écoute, votre art du jardin ?
Pas uniquement.
Non, certainement pas uniquement, c'est aussi un art de l'écoute.
Nous sommes des sortes de passeurs, art de l'écoute et de la transmission. C'est-à-dire que si nous arrivons à comprendre quelque chose, nous pouvons essayer de le faire passer. En ce moment, je travaille sur un projet avec les scientifiques sur le thème de la conversation entre les plantes. Les plantes, effectivement, parlent avec un langage qui n'est pas le nôtre, qui est physique, chimique, magnétique, etc. Et elles se disent des choses extrêmement importantes parce qu'elles ont établi ce langage depuis des millions et des millions d'années avant que nous ne soyons là. Mais nous ne le connaissons pas. Essayer de le comprendre nous permettrait d'instruire un jardinage plus fin, plus intelligent, dans le futur, qui nous permettrait d'aller plus avec et moins contre cette nature. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on ne cesse de lutter contre la nature qui nous gêne, soi-disant? Si on la comprenait mieux, elle nous gênerait moins.
Finalement, le bétonnage du monde n'empêche pas les jardins de...
Le bétonnage du monde n'empêche pas. Mais il pose d'autres problèmes, c'est sûr. Pas seulement de composition du paysage, mais aussi d'obstruction, de stérilisation. Manger le garde-manger, comme je dis, quand la ville s'étend sur des terres arables, c'est embêtant. Donc le béton, il y a des limites. Il faut qu'on envisage quelque chose d'autre. Peut-être que les surfaces qui sont occupées par le béton soient complétées par les toits terrasses, hein, par des surfaces équivalentes où quelque chose peut pousser.
Mais dans ce béton de ces hangars sous-marins à Saint-Nazaire, ça se lézarde de partout.
Oui,
ça
bouffe
faire 9 mètres d'épaisseur, ça.
Oui.
La pluie, l'eau passe. Hein.
Oui, tout à fait. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les prisonniers français par les Allemands qui ont construit ça sous l'ordre des Allemands étaient aussi dans un état de résistance et ont fait un béton de mauvaise qualité dans l'espoir que ça se dégrade. Alors voilà, c'est en train, effectivement.
Les Allemands auraient laissé passer ça? Ils avaient quelques ingénieurs,
ils étaient pressés. Hein. Ils étaient pressés, ils étaient en guerre, ils étaient pressés. Ils n'ont pas tout vérifié.
Donc les lézards, ça vous arrange?
Ça ne m'arrange, oui, bien sûr, parce qu'il y a plein de plantes qui en profitent.
Béton, la lumière et le vent, par Christian Rosset, avec Gilles Clément, Marc-Antoine Mathieu, Elisa Fache, Sophie Legrand-Jacques et Franck Bertrand. Production, coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Prise de son, Martin Guénard, Emmanuel Morse-Duncan. Mixage, Éric Boisset. Réalisation, Gaël Gillon. Musique originale, Christian Rosset, Benjamin Bondonneau, clarinette et percussion. Musique de l'installation Sens, Patrice Groupalo. Et pour prendre congé, Detonation de Thurston Moore.
Demain, vous retrouvez Manu Farine pour Poésie et ainsi de suite. Mercredi prochain, nous entrerons avec Vincent Deck dans la Maison des Ondes. Jeudi, ce sera l'ACR pour un essai d'Olivier Caparros et Nathalie Battus sur la langue inconnue des Wards. Je vous laisse à l'écoute des Nuits de France Culture, élaborée par Philippe Garbi et son équipe.